Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, c'est plus qu'une chorale. Google et Apple ont encore eu un problème de gorille. Et le mouvement hashtag MeToo n'est pas allé assez loin. Bonne écoute.
C'est plus qu'une chorale. Un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 28 mai 2023 dans la presse. Ma grand-mère disait « Quand on chante, on ne peut pas être triste ». C'est la première fois que Brigitte participe à Cœur d'un soir. Contrairement à moi, elle ne semble pas nerveuse, même qu'elle a hâte. Chanter en groupe, c'est thérapeutique. Je ne sais pas. Si j'adore mes gosiers en voiture ou sous la douche, je doute qu'on puisse trouver mes fausses notes thérapeutiques. Je me trouve malgré tout dans la salle de spectacle La Casona par un dimanche après-midi pluvieux, prête à me lancer. Une centaine de personnes ont également répondu à l'appel. Dans les deux prochaines heures, on chantera en harmonie « Mes blues passent plus d'emporte » d'Offenbach et « Modern Love » de David Bowie. Pas besoin de savoir lire la musique ou d'être sur la note. Tout le monde est bienvenu. C'est la 14e édition de l'événement quasi mensuel organisé par Cœur de loup, la chorale fondée par Marie-Josée Forêt et Jean-François Fortier. Marie-Josée était graphiste depuis 25 ans et souhaitait se réinventer. Quand son acupuncteur lui a conseillé de chanter pour favoriser la santé de ses poumons, elle s'est jointe à une chorale. Elle a rapidement compris que ce qu'elle voulait faire, au fond, c'était en diriger une. Je me demandais en quoi ma chorale pourrait être différente des autres, m'explique Marie-Josée, tandis que Jean-François accorde sa guitare. Comme mon grand plaisir est de chanter en harmonie, on a invité des amis à le faire avec des chansons des années 1980, d'où le nom Cœur de loup. En deux heures, Marie-Josée Forêt a su enseigner à ses convives comment chanter deux titres et ce, en utilisant de simples gestes de la main. Fière de cette réussite, en septembre 2018, elle commençait à diriger sa propre chorale. Depuis, une centaine de personnes de 20 à 70 ans se retrouvent chaque semaine sans audition, partition ou spectacle de fin de session. « Je suis qui, moi, pour te dire si tu chantes bien ou non? Tout le monde a le droit de chanter et de voir ce que ça fait », affirme Marie-Josée Forêt, cofondatrice de la chorale Cœur de loup. Justement, qu'est-ce que ça fait? Ça oblige au moment présent, selon elle. Lorsqu'on se concentre pour apprendre une harmonie, on n'a pas le temps de penser à autre chose. Puis, une fois les notions intégrées, on se détend. Pour que tous puissent connaître cette sensation, le duo a lancé les événements Cœur d'un soir, ouverts au grand public. On n'est pas dans la perfection, mais ça donne de très beaux résultats, précise Marie-Josée. Je suis celle qui viendra tout anéantir. Jean-François Fortier nous rejoint juste à temps pour me rassurer. C'est quoi, chanter mal? On est souvent sévère envers soi-même. J'insiste, je fausse. Peut-être que tu fais une harmonie et que tu ne le sais pas, tente Marie-Josée avec beaucoup de générosité. Je les laisse filer avant de paraître trop pitoyable et j'en profite pour sonder les participants attroupés autour du bar. Ici, on chante avec un verre à la main si on le souhaite. Je découvre que la chorale a engendré plusieurs amitiés. Marie-Christine Letourneau, une habituée, me fait cadeau du titre de cette chronique. « Ce qui est beau au-delà de la musique, c'est le côté humain. C'est plus qu'une chorale. » Une dénommée Annie Quintin m'offre pour sa part du réconfort. Quand on chante avec d'autres gens, on dirait qu'on chante mieux. Tu remarqueras qu'il manque d'hommes, par exemple, surtout de célibataires, avec une barbe. Tandis que je tente d'évaluer le ratio homme-femme parmi les participants, j'aperçois un bédéiste. Michel Rabagliati a 19 ans d'expérience en chant choral et il admire la technique employée par Marie-Josée Forêt. C'est facile de la suivre et on voit le gâteau monter de minute en minute. C'est écœurant. Selon lui, Chœur d'un soir est le genre d'événement qui peut nous réconcilier avec la musique. Il y a tellement de gens qui se sont fait exclure de la chorale, à l'école, et qui ne veulent plus chanter. C'est terrible faire ça à un enfant. La voix, c'est personnel. Ça sort du cœur. Tu peux venir chercher la guérison ici, nous dit Michel Rabagliati, bédéiste. Marie-Josée et Jean-François nous invitent maintenant à nous approcher de la scène. Annie Quintin me repère tandis que je me cache derrière la foule. Si je veux rapporter l'expérience avec rigueur, je dois me poster au centre du groupe, franchement. Au même moment, un homme devinant ma gêne me lance. « Si tu es ici, il faut que tu chantes. Tu ne murmures pas, tu chantes !» Je m'avance en me promettant de ne pas me défiler. Après quelques exercices de respiration, on entonne instinctivement, mais Blues passe plus d'emporte. Marie-Josée invite les gens à l'aise avec la mélodie à rester devant elle. Ils seront les altos. Elle nous offre ensuite une première harmonie. Si on préfère chanter comme ça, on peut aller à sa gauche et faire partie des basses. Puis, elle nous en fait découvrir une seconde et somme les chanteurs qui le souhaitent de bouger à sa droite pour être des sopranos. Je choisis les basses. Couplet par couplet, Marie-Josée nous indique comment livrer la mélodie et les différentes harmonies. Lorsqu'on chante en chœur, elle utilise ses mains pour guider chaque clan. Je remarque que je murmure par peur de ruiner le travail du groupe. Je pense aussitôt à l'homme rencontré plus tôt et je chante. Quand j'arrête de m'écouter pour plonger dans les sons émis en chœur, je suis soufflée par la beauté de ce que j'entends. On s'appuie les uns sur les autres, on met la pudeur de côté pour faire aller notre voix, quelle qu'elle soit. Je ne suis pas en auto ni sous la douche, mais je souris en m'époumonant. Une liberté à laquelle je vous souhaite de goûter. C'était, c'est plus qu'une chorale, un texte de Rose-Aimée Autonne Témorin, paru le 28 mai 2023 dans La Presse.
Google et Apple ont encore eu un problème de gorille. Un texte de Nico Grant et Cachemire Hill, paru le 24 mai 2023 dans La Presse, d'abord publié dans The New York Times. Lorsque l'appli Google Photos a été lancée en mai 2015, elle a fait sensation. Elle pouvait analyser les images et étiqueter les personnes, les lieux et les choses s'y trouvant. À cette époque, c'était stupéfiant. Deux mois plus tard, un concepteur de logiciels, Jackie Alciné, qui est noir, tout comme une amie, a découvert sur une photo que Google les avait étiquetés comme des gorilles. L'étiquette est particulièrement insultante, d'autant qu'elle peut avoir une connotation raciste. Monsieur Alciné a mis une capture d'écran sur Twitter et critiqué Google. Durant la controverse qui a suivi, Google a bloqué la catégorisation « gorille » de l'appli photo et promis de régler le bug. 8 ans plus tard, prenant acte des progrès de l'intelligence artificielle, nous avons vérifié ce qu'il en était et regardé du côté des concurrents, Apple, Amazon et Microsoft. Il y a un membre de la famille des primates que Google et Apple arrivent à reconnaître. Le lémurien, cet animal à la longue queue et à l'air perpétuellement étonné qui, comme l'homme, a des pouces opposables, mais qui est un parent plus lointain que les grands singes. Les outils de Google et d'Apple étaient à l'évidence les plus avancés en matière d'analyse d'images. Pourtant, Google, dont le logiciel Android est au cœur de la plupart des téléphones dans le monde, a désactivé la recherche visuelle d'images de primates de crainte d'étiqueter par erreur une personne comme un animal. Apple, dont la technologie présente des performances comparables à celles de Google dans notre test, semble aussi avoir bloqué la fonction de recherche des singes et des primates. Faille impossible à corriger dans l'IA? Les consommateurs n'ont peut-être pas besoin d'identifier un primate si souvent. Quoiqu'en 2019, un utilisateur d'iPhone se soit plaint sur le forum d'Apple que le logiciel ne peut pas identifier les singes dans ses photos. Ce problème soulève toutefois des questions sur d'autres failles non corrigées ou impossibles à corriger qui se cachent dans les services utilisant la vision artificielle ainsi que dans d'autres produits alimentés par l'IA. Monsieur Alciné s'est dit consterné d'apprendre que Google n'avait toujours pas résolu le problème. « La société fait trop confiance à la technologie, dit-il. « Je n'aurai jamais confiance en l'IA, a-t-il déclaré. La vision artificielle sert désormais à des tâches aussi banales que l'envoi d'une alerte lorsqu'un colis a été livré à la porte et aussi lourde de conséquences que la navigation automobile et la recherche de suspects par la police. Dans l'affaire du gorille, deux ex-employés de Google ayant travaillé sur cette technologie ont déclaré que le problème venait du fait que l'entreprise n'avait pas mis assez de photos de noirs dans l'énorme collection d'images utilisées pour entraîner son système d'intelligence artificielle. La technologie n'avait pas été suffisamment exposée à des personnes à la peau foncée et les a prises pour des gorilles. Google n'a pas découvert le problème du gorille à l'époque parce qu'elle n'avait pas demandé à assez d'employés de tester la fonction avant son lancement public, ont déclaré les deux anciens employés. L'IA arrive dans nos vies et elle fait craindre des conséquences imprévues. Les produits de vision artificielle et les robots conversationnels comme ChatGPT sont différents, mais tous dépendent des données qui entraînent le logiciel. Tous peuvent mal fonctionner en raison de failles dans les données ou de biais incorporés dans leur code. Microsoft vient d'imposer des limites aux robots conversationnels intégrés à son moteur de recherche Bing après qu'il eut abordé des sujets déplacés avec des utilisateurs. Désactiver plutôt que corriger. Cette décision de Microsoft, comme celle de Google sur l'identification des gorilles, illustre une approche courante dans l'industrie. Bloquer les fonctionnalités technologiques défectueuses au lieu de les corriger. C'est important de résoudre ces problèmes. Comment peut-on faire confiance à ce logiciel dans d'autres scénarios? Souligne Vicente Ordonez, professeur à l'université Rice de Houston, au Texas, qui étudie la vision artificielle. Si Google a désactivé l'identification des singes et des gorilles de son application photo, c'est parce que l'avantage était moindre que le risque de préjudice, dit Michael Marconi de Google. Apple n'a pas souhaité commenter cet enjeu. Chez Amazon et Microsoft, on a simplement indiqué qu'on cherchait toujours à améliorer les produits. Même problème sur Nest durant les tests. Des années après l'erreur de Google Photos, l'entreprise a eu un problème similaire avec sa caméra de sécurité domestique. Nest, lors des tests, a dit un ancien employé. La caméra Nest, qui utilise l'IA pour déterminer si une personne se trouvant sur les lieux lui est familière ou non, a confondu des personnes noires avec des animaux. Google a vite corrigé le problème avant le lancement du produit, a indiqué cet employé. Mais sur les forums de Google, des clients se plaignent d'autres défauts. En 2021, un client a reçu des alertes indiquant que sa mère sonnait à la porte. Quand il a ouvert la porte, c'était sa belle-mère. Lorsque les utilisateurs se sont plaints que le système confondait les visages qu'ils avaient marqués comme familiers, le service à la clientèle leur a dit de supprimer toutes leurs étiquettes et de recommencer. Google a travaillé dans les coulisses pour améliorer cette technologie, mais elle n'a pas permis aux utilisateurs de juger ses efforts. La chercheuse Margaret Mitchell, cofondatrice du groupe Ethical AI de Google, s'est jointe à l'entreprise après l'incident du gorille et a collaboré avec l'équipe photo. La décision de supprimer l'étiquette des gorilles, au moins pour un temps, était la bonne, dit-elle. Il faut mettre dans la balance l'utilité de pouvoir étiqueter un gorille avec les torts liés à la perpétuation de stéréotypes néfastes a expliqué Mme Mitchell. Le tort qu'un dysfonctionnement peut causer pèse plus lourd que les avantages. Ces systèmes ne sont jamais infaillibles, souligne Mme Mitchell, qui a quitté Google. Puisque des milliards de personnes utilisent Google, même les pépins qui ne concernent qu'une personne sur 1 milliard d'utilisateurs feront surface. Une seule erreur peut avoir des ramifications sociales massives. C'est l'aiguille empoisonnée dans une botte de foin. C'était « Google et Apple ont encore eu un problème de gorille », un texte de Nico Grant et Kashmir Hill, paru le 24 mai 2023 dans la presse, d'abord publié dans The New York Times. Le mouvement #MeToo n'est pas allé assez loin. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 mai 2023 dans La Presse. Alors que bien des gens estiment que le mouvement #MeToo est allé trop loin, sa fondatrice croit au contraire qu'il n'est pas allé assez loin. « Nous ne sommes certainement pas allés assez loin », me dit Tarana Burke, dans une entrevue exclusive à l'approche d'une conférence prononcée à Montréal le 8 juin 2023 dans le cadre du Sommet international de l'éco-citoyenneté, SIDE. C'est la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, victime de l'ex-député Harold Lebel, qui a récemment fait œuvre utile en témoignant avec courage de son parcours dans le système judiciaire, qui la présentera sur scène. Lorsque Tarana Burke, travailleuse sociale afro-américaine originaire du Bronx, a lancé le mouvement MeToo en 2006. Il s'agissait au départ d'une initiative communautaire auprès de jeunes filles noires. Son but, permettre à des survivantes de violences sexuelles de se regrouper, de partager leurs histoires et de trouver ensemble une forme d'empowerment à travers l'empathie. C'est en puisant dans sa propre expérience de survivante que Tarana Burke a eu l'idée de lancer un tel projet. Ce qui m'a été vraiment utile dans mon parcours, c'est l'empathie manifestée à mon égard par d'autres survivantes. Ce sont elles qui m'ont aidé à trouver le mot « survivante ». Je ne m'identifiais pas ainsi. Je ne me considérais même pas comme une victime. J'avais l'impression d'avoir été complice de ma propre situation d'abus. Je me sentais impuissante. Je ne pensais pas que la guérison était possible ou que j'en étais digne. Alors, quand j'ai senti que d'autres survivantes me voyaient et m'entendaient pour la première fois, cette empathie fut un vecteur de reprise de pouvoir pour moi. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de l'autre côté de ma douleur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'aventure #MeToo aura été un voyage rempli de surprises pour Tarana Burke. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que son initiative communautaire se transforme en mouvement international dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein, qui a rendu viral le mot-clic #MeToo en 2017. Elle avoue aussi qu'elle ne s'attendait pas non plus à ce que le mouvement subisse un tel ressac. Quand les gens lui disaient de prendre garde au contre-coup, elle refusait naïvement d'y croire, car après tout, quel genre de contre-coup pourrait susciter un mouvement qui ne fait que revendiquer le consentement et la fin des violences sexuelles, se demandait-elle. Après le déferlement des vagues #MeToo, le ressac est, hélas, bien réel. Je crois que des gens se méprennent volontairement sur ce que ce mouvement signifie et le transforment en guerre des sexes, dit Tarana Burke. La violence sexuelle n'est pas une affaire de sexe, répète-t-elle souvent. C'est un enjeu de justice sociale. Cela a tout à voir avec le pouvoir, la domination, les privilèges et la façon dont les gens exercent leur pouvoir. Le ressac s'incarne par un refus d'affronter une réalité difficile, observe la militante. Cela ne concerne pas que les agresseurs. Je crois que nous jouons tous un rôle dans la culture du viol, cette culture qui a ouvert la voie à la prolifération de la violence sexuelle. Au lieu de faire l'examen de conscience qui s'impose dans les circonstances, il est plus facile de se réfugier dans l'aveuglement volontaire. Nous ne voulons pas admettre que nous n'avons pas accordé à cet enjeu l'attention qu'il mérite. On préfère dire « Oh, vous allez très loin, ce n'est pas si pire. Vous vous plaignez trop, revenez-en. » Vous écoutez « Le mouvement #MeToo n'est pas allé assez loin », un texte de Rima El-Khoury paru le 22 mai 2023 dans La Presse. Si le mouvement #MeToo était vraiment allé aussi loin qu'on le prétend, les violences sexuelles ne seraient pas encore aussi endémiques. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est encore plus vrai au Canada, notamment en ce qui concerne les femmes autochtones, souligne Tarana Burke. C'est alarmant de voir ce à quoi les communautés autochtones sont confrontées en matière de violences sexuelles. Et c'est largement ignoré. De dire que le mouvement n'est pas allé assez loin, surtout au Canada, est un euphémisme, dit Tarana Burke. Malheureusement, au lieu de s'alarmer de ce qui est vraiment alarmant, certains considèrent que ce qu'il faut craindre plus que tout dans la foulée de #MeToo, c'est la culture du bannissement. Pour Tarana Burke, ce qu'on appelle la « cancel culture » est un grand méchant loup imaginaire. Si vous regardez les gens qui ont été mis en prison, on parle d'une poignée de personnes qui sont des prédateurs en série, comme Harvey Weinstein ou R. Kelly. Des gens qui ont commis des agressions durant plusieurs décennies, faisant un grand nombre de victimes. Mais généralement, quand on parle de personnes qui ont été annulées, il s'agit d'hommes privilégiés qui jouissent encore de leur fortune et de leur liberté. Alors, que veut dire « annuler » dans un tel contexte? Le fait est que l'on voit bien davantage de victimes que d'agresseurs être bannis pour avoir osé faire une dénonciation publique. Quand on regarde les femmes, et dans certains cas des hommes, qui ont fait un dévoilement, ce sont des gens qui ne peuvent plus travailler, qui ont été écorchés dans les médias sociaux. Après avoir subi des violences sexuelles, ils subissent les représailles de fans. Il n'y a pas de gloire à faire un dévoilement. Il n'y en a jamais eu. Surtout pour les survivants de célébrités, mais aussi pour les autres. Il faut par ailleurs garder à l'esprit que le mouvement #MeToo a très peu à voir avec la célébrité. Cela concerne principalement des citoyens ordinaires qui doivent faire face à la violence sexuelle dans leur vie et qui ont fait en sorte que ces deux mots sont devenus viraux. Plus de 15 ans après avoir fondé #MeToo, devant la violence des contre-coups et l'immense travail qu'il reste à faire, qu'est-ce qui donne à Tarana Burke la force de continuer?
Ça dépend des jours, me dit-elle. Je suis encouragée par d'autres survivantes, parfois par ma propre survie. C'est dur d'observer un monde qui est dans un tel état sans être incité à agir, dit Tarana Burke. Tarana Burke dit se sentir programmée pour répondre à l'injustice. Malgré tout, pour être franche, il y a bien des jours où je me réveille sans en avoir envie. Mais même ces matins de grosse fatigue, elle tâche de lutter autrement pour surmonter son traumatisme de survivante et ressentir une liberté absolue. Ça peut se traduire de façon plus créative par l'écriture d'un poème, une chanson ou une conversation en tête-à-tête. Je crois que c'est important que les gens comprennent que les façons dont on répond à l'injustice ne consistent pas toujours forcément à lever le poing pour créer un mouvement et monter au front. Tarana Burke se sent aussi inspirée par l'histoire de ses ancêtres qui ont lutté contre l'esclavage. Son arrière-arrière-grand-père, qui est né esclave, n'a cessé de croire qu'un autre monde était possible. En rêvant à son tour d'un monde exempt de violences sexuelles, elle suit ses traces. Il s'agit d'envisager un tel monde et de vivre en fonction de cette vision. Cela ne veut pas dire que ça va arriver d'ici 10 ans, mais je pense que mon travail sème les graines qui permettront à un tel monde de voir le jour. Qui est Tarana Burke? 1973, naissance dans le Bronx, à New York. 2005, la travailleuse sociale afro-américaine crée Just Be Inc., un organisme voué au bien-être des jeunes filles noires. Le mouvement MeToo voit le jour peu après. 2017, lorsque dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein, le mot-clic hashtag MeToo devient viral, Tarana Burke s'impose comme une figure de proue d'un mouvement international contre les violences sexuelles. Elle est nommée personnalité de l'année du magazine Time. 2018, nommée parmi les 100 personnes influentes du magazine Time. En savoir plus, source Statistique Canada. 46% proportion des femmes autochtones qui ont été victimes d'agressions sexuelles. 33% proportion des femmes non autochtones qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Source Statistique Canada. C'était « Le mouvement hashtag MeToo n'est pas allé assez loin », un texte de Rima El-Khoury paru le 22 mai 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Justine Langevin et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.